Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour, c'est Lis des livres sur CFM, votre émission littéraire du mardi à 12h35 et en rediffusion le samedi à 18h, présentée par Fred et Monique. Bonjour Monique.
Bonjour Fred. Accompagné de Joël. Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour Fred. Joël. De la librairie La Folle Avoine pour une chronique épisode numéro 1 sur Umberto.
Alors, Umberto Eco, ce sera épisode 1 et dernier.
Voilà,
numéro 0, c'est son roman qui vient de sortir et qui touche à la presse.
Donc nous allons vous présenter, nous, un roman de Lionel Duroy qui s'appelle Échappé aux éditions Julliard et un roman jeunesse, 12 ans, 7 mois et 11 jours, de Loris Murail aux éditions Pocket Jeunesse. Pour commencer, Lionel Duroy, pour ceux qui le connaissent, il est né en Tunisie où son père était en poste, donc il est né un 1er octobre. Et il a toujours dit que ses vraies naissances étaient ailleurs, dans des circonstances dramatiques d'ailleurs, en particulier quand ils ont été expulsés de leur appartement de Neuilly, que leur père avait trouvé sans avoir les moyens de payer le premier loyer. Lionel Duroy est effectivement né dans une famille très très particulière. Il s'appelle en réalité Lionel Duroy de Sud-Biran, parce qu'il est venu au monde de l'union d'un noble désargenté, et d'une fille de négociant en vin bordelais qui voulait tenir son rang. Ils eurent 11 enfants et jamais d'argent. Donc il raconte les péripéties familiales dans un livre assez sidérant qui s'appelle Le Chagrin, que nous vous conseillerons et que nous vous conseillons ardemment. Et dans une écriture qui mêle l'intime et les événements extérieurs, Duroy se dévoile lui-même et ceux qu'il côtoie. Il est séparé de sa première femme, il a quitté la deuxième. Il est rejeté par ses frères et sœurs, repoussé par certains de ses enfants. Sa vie, c'est une succession de ruptures et il les met inlassablement en scène, en reconstruisant les événements pour comprendre et échapper à la perte. Et ce n'est pas un hasard si le roman dont on parle aujourd'hui a ce titre. Il dit lui-même qu'échapper, c'est croire encore possible de se libérer de la souffrance et du tremblement intérieur. Et qu'est-ce qui sauve Lionel Duroy de la fin de son mariage avec Esther, sa deuxième femme? C'est un livre en particulier, La leçon d'allemand de Siegfried Lenz, et dans lequel, pour lequel il dit « La vie réelle est affreusement contrariante. Curtis, c'est son éditeur, vous le savez bien, elle ne serait pas supportable sans les livres, ceux que nous lisons et ceux que nous écrivons. » Donc à partir du livre de Lenz, qui raconte la vie du peintre d'Émile Nolde, Lionel Duroy va construire son propre roman. Et la vie d'Émile Nolde dans le livre de Lenz qui s'appelle La leçon d'allemand, c'est une fiction qui a tellement habité Lionel Duroy qu'il rêve de s'installer dans le pays où elle se déroule afin d'en écrire une suite. Mais écrire une suite, finalement, est-ce qu'on a vraiment le droit quand on n'est pas l'auteur d'un livre? Et je crois que ce n'est qu'un prétexte. Mais ça l'empêche pas de partir à Oulsum. En fait, c'est partir pour retrouver des traces d'un homme dont l'héroïsme le fascine et pourrait le porter lui-même à continuer d'écrire. Et sa quête lui fera découvrir que persécuté par les nazis, Émile Nolde s'est compromis en écrivant une supplique à Goebbels afin de récupérer ses œuvres qu'on lui avait confisquées sous prétexte qu'elles étaient de l'art dégénéré. Et là, il développe un des thèmes du livre sur comment survivre à l'histoire avec son histoire. Et puis, comme faisant écho aux pensées intimes de Lionel Duroy, il y a le paysage de l'Europe du Nord, qui est fait de ciels d'orage et de digues battues par la mer et les vents, que l'homme reconstruit inlassablement pour ne pas céder à la mer et à sa propre folie. Il s'attarde aussi sur l'amour de Émile Nolde avec Yolande, une très jeune fille, après la mort de Ada, sa première femme. Lenz n'en avait pas parlé dans son roman, mais Duroy en a extrait avec justesse les véritables aspirations de chacun, et surtout les fausses raisons de chacun, que chacun donne à voir, les fausses raisons qu'on a de s'aimer, ou les fausses raisons qu'on se donne. Lionel Duroy dit ce que l'on n'ose pas dire ou admettre, arrivant ainsi à l'essence des sentiments et à une vérité essentielle, la sienne, qui devient alors la nôtre, en éclairant nos propres émotions. Il n'y a que la littérature pour arriver à ce petit miracle, où l'on échappe aux mensonges, où l'on écrit, où comme l'écrit Lionel Duroy, la vie est grande et enviable dans les livres, intéressée et impitoyable sur la terre.
ce qui fait aussi l'intérêt de ce livre, c'est le côté gigogne, parce que il est amoureux du roman de Lenz, mais il a déjà essayé de le retrouver avec sa première femme, avec Exter. Et le deuxième voyage qu'il fait tout seul, il essaye de retrouver les traces de son voyage avec Exter, et en même temps les traces de Nold. Alors c'est assez compliqué, toutes ces traces qui se mettent les unes dans les autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'impossibilité à retrouver le passé, hein, puisque tout ce qui a trait à Nold dans ce paysage-là, a été rasé. C'est-à-dire, la mer qui envahit régulièrement ces terres, qui sont protégées par des digues, a recouvert la maison de Nold qui a disparu. Et même si on va la rechercher dans la vase, puisqu'il reste la vase, ce serait qu'un petit bout de brique avec un morceau de ferraille autour.
Oui, mais c'est pour ça que Lionel Duroy écrit d'ailleurs, qu'il écrit chaque jour dans un espèce de journal intime où il dévoile chaque émotion, où il l'analyse, il la décortique pour la conserver intacte. Parce qu'il sait que le temps va effacer tout ça et que la maison aux 400 fenêtres, et ben, bon, en plus elle n'existe pas,
elle
cette
existe
maison.
Pas,
non, mais c'est. Moi je trouve que ce livre, en plus, il faut le lire. Il faut lire chaque phrase parce que l'émotion, c'est un. L'émotion est un moment intime, mais qui se décale très très vite et imperceptiblement vers autre chose quand on la perd. Et je crois que ce livre-là, il écrit vraiment là-dessus. Et Monique et moi, on a été complètement.
Oui, mais ça démarre. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'atmosphère, la description des paysages. Au début du livre, on rentre là vraiment. De façon extraordinaire, bon, le lien avec Émile Nold, et ça donne envie d'aller voir qui était cet homme, effectivement, et de lire aussi le roman de Lenz dont il parle. Mais moi, ce qui m'a bien plu et interrogé, c'est à la fois sa démarche d'homme et d'écrivain. Je trouvais que ça avait un petit peu quelque chose d'universel. Bon, ben, qui d'entre nous ne s'est jamais interrogé sur ses sentiments, ses rapports aux autres, les choix qu'on fait ou qu'on fait pas, les chemins qu'on prend, qu'on ne prend pas, qu'on détourne, pourquoi? Et d'où vient tout ça, quoi, le poids de l'enfance, sa propre histoire, et puis l'histoire collective aussi, l'histoire familiale, et Dieu sait que dans la vie de Lionel Duroy, c'est pas rien, l'histoire familiale. Donc voilà, comment on se débrouille avec tout ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand il dit, par la voix d'Augustin, que la vie réelle ne serait pas supportable sans les livres. La phrase que tu citais tout à l'heure.
D'ailleurs, voilà. il cite énormément de livres dans ce roman Échappé. Il parle de Malaparte, de Sandrard, de Rilke, de Duras, de Bello. Et on sort de ces pages avec l'envie de se précipiter chez le libraire, ce qui est quand même très positif, pour lire la leçon d'allemand, bien sûr, mais aussi la fin de Knut Hamsun.
Surtout la fin, ouais, dont on a parlé.
La fin est F-A-I-M.
F-A-I-M, qui était préfacée par Octave Mirbeau.
Voilà, il y fait référence plusieurs fois. Comme étant le livre qui l'a amené à l'écriture. Donc c'est un Duroy à ne pas laisser échapper indéniablement. Voilà. Et pour finir, on va écouter la magnifique chanson « Il n'y a pas d'amour heureux » chantée par Georges Brassens d'un poème d'Aragon, à partir d'un poème d'Aragon.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillé pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai dressés et qui pour tes grands.
Donc nous allons vous parler maintenant de 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille, qui est le frère de Marion Muraille, et de Elvire, mm-hmm. avec lequel il avait déjà écrit Golem. Loris Muraille n'en est pas à son premier essai, il a fait plusieurs romans jeunesse, et celui-ci nous a particulièrement plu, c'est un thriller, avec un prologue qui donne tout le mystère à la suite. Et le nom du personnage principal, c'est Walden, et ça fait référence à une histoire qui se passe dans la forêt. Donc Monique va nous raconter les tenants et les aboutissants.
Voilà, donc avec ce titre, 12 ans, 7 mois et 11 jours, déjà on peut se poser des questions. Et l'auteur va nous entraîner là dans une histoire qui commence comme un récit d'aventure et puis ça se termine en thriller, quelque peu surprenant. Ce titre étrange révèle l'âge de Walden, le jour où son père l'amène dans une cabane en rondin, perdue au cœur d'une forêt, au milieu des grandes forêts du Maine qui comptent des milliers d'hectares de lacs et de rapides. Il l'abandonne là, tout seul, sans explication, avec pour seule viatique une carabine, une batte de baseball, quelques boîtes de conserve, haricots saucisses, et deux livres de Henri David Thoreau, Les forêts du Maine et Walden ou la vie dans les bois. Donc on verra pourquoi ce titre après un lien avec tout ça. Donc il doit survivre là quelques jours, totalement coupé du monde, jusqu'à ce qu'il ait atteint exactement l'âge de 12 ans, 7 mois et 11 jours.
Pas 10.
Pas 10, 11. Mais qu'est-ce qui pousse son père, Jack Stephenson, à cet acte-là? On peut se poser la question. Cet homme est autoritaire, violent. Effectivement, on le sent dès le début. Il ne vit que pour ses deux passions, le baseball et sa voiture. Ah, sa voiture, une Chevrolet Impala de 1995, couleur rouge cerise métallisée, c'est très important. Et en fait, il a du mal à supporter son fils qui est un peu mou du genou là,
Nul en sport,
nul en sport, qui préfère lire et construire des maquettes. Alors pour un garçon,
qui joue
pas
au
top.
Rubik's Cube.
Voilà, il joue au Rubik's Cube, voilà, c'est pas top. Donc Jack Stephenson décide alors que il est temps, et grand temps, que son fils devienne un homme, un vrai. Donc, dans la première partie du roman, on suit au jour le jour ce parcours initiatique de Walden, là, qui sait à peine tenir une batte de baseball, ne connaît rien à la nature, et va être obligé d'affronter ses peurs et de lutter pour sa survie, se fiant à son intelligence, à sa débrouillardise. Et il remet en cause ses capacités d'adaptation. Alors tout de suite, on est happé par l'histoire, on a envie de savoir si il va s'en sortir ou pas, et jusqu'où va aller son père, parce que ça, c'est une question quand même qui taraude.
Et alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est l'écriture. J'ai trouvé que c'était une écriture qui était adulte. Il s'adresse pas aux ados, comme si c'était des...
Ah oui, mais ça peut être tout à fait lu par des grandes personnes, on va dire. La preuve, on est tombé dedans assez vite, quoi. Et donc, dans la deuxième partie du roman, c'est intéressant aussi parce que l'auteur change de point de vue. Et là, on retrouve le père. Donc, ce fameux Jack Stephenson, un homme qu'on n'a pas très envie de connaître.
Non, tout de suite, on comprend que
au passé
c'est sombre, pas le père idéal, non.
Voilà, c'est pas le père idéal. On comprend qu'il cache un lourd secret. En plus, l'histoire, elle est très très bien ficelée, je trouve, hein, parce que de rebondissement en retournement, l'auteur crée tout le temps un suspense, quoi, hein, qui s'intensifie vraiment jusqu'au bout. On est embarqué par la tension, le mystère, le suspense, et on se demande comment ça va se terminer, tout ça. Alors, l'autre question qu'on se pose, c'est au-delà du prénom Walden, pourquoi ce lien entre le livre de Thoreau et le personnage central de ce roman? Donc juste un petit mot pour resituer Henri David Thoreau, qui est un essayiste, donc philosophe, naturaliste, américain, né en 1817. Il publie Walden ou la vie dans les bois en 1854. Donc il consigne dans cet ouvrage ses réflexions, puisqu'il est parti, il a tourné le dos à la civilisation moderne, on va dire. Il a entrepris ce qu'il a appelé une révolte solitaire. Et il est parti vivre tout seul au milieu des bois, justement dans cette région-là, dans ces forêts du Maine. Donc il est considéré comme étant à l'origine du concept contemporain de la non-violence. Et par ses écrits, ses conférences, bon, il a lutté, milité aux côtés des abolitionnistes, puisque bon, il était évidemment contre l'esclavage, les lois raciales. Alors, à travers tout ça, il a développé une philosophie de résistance non violente et qui a influencé d'ailleurs la littérature, notamment Tolstoï, et puis aussi Gandhi et Martin Luther King. Donc, par tout ça, ses écrits, son mode de pensée, sa philosophie, il est considéré aujourd'hui comme l'un des pionniers de l'écologie et des mouvements de la décroissance, parce qu'il a replacé l'homme dans son milieu naturel et au respect de l'environnement. Et donc Walden se retrouve dans la même situation que David Henry Thoreau un siècle et plus avant.
Bon, encore un livre.
Donc c'est un très très bon roman jeunesse.
Voilà, encore très un bien. Livre qu'il va falloir aller lire.
Voilà.
Pendant les vacances.
Walden, oui, c'est le bréviaire des écolos et depuis 68, il est un imaginaire d'ailleurs, il y a très en poche quoi.
Ok, donc on va écouter Into the Wild, un extrait de la BO de Into the Wild, avec un morceau court qui s'appelle Rise.
Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith.
Je voulais dire que le père de Walden et celui du roi sont aussi abominables l'un que l'autre, donc on les mettra de côté. Non, moi ce que je voulais vous parler, c'est dans la continuité des chroniques, je vous ai beaucoup parlé de journalistes de la fin du 19e et du début du 20e, qui ont installé le journalisme d'investigation, que ce soit Fénéon, que ce soit André Léo ou que ce soit Séverine, et tous ces journalistes-là, bon, actuellement, ce journalisme, qui est celui qui a été mis en décret en 45, ce journalisme est en train de changer. Il est en train de changer à cause de la télé et à cause d'Internet. Et vient de sortir un ouvrage de Umberto Eco qui replace le nouveau journalisme dans son contexte, c'est-à-dire le nouveau journal. Et pour ça, il va mettre en scène, c'est un vrai roman, qui met en scène un chef de rédaction qui veut faire un numéro zéro. Et ce numéro zéro, ça va être une espèce de journal de chantage d'appât pour les financiers, de façon à gagner tout simplement, à gagner de l'argent. Et dans ce livre-là, il définit tous les trucs de journaliste, tous les trucs que tout lecteur devrait connaître pour essayer de décoder le langage et décoder la fabrique du consentement. Parce que le rôle des journaux, c'est d'arriver à convaincre le lecteur que c'est le journaliste qui a raison, que c'est l'édito qui est correct. Et Umberto Eco nous donne dans ce livre-là tous les éléments, si on le lit correctement, tous les éléments pour comprendre et se défendre, et puis pour pas être complètement enseveli par l'information. Et je crois que c'est un vrai problème du moment, puisqu'en plus de ce roman d'Umberto Eco, je veux vous signaler le numéro spécial de Politis qui s'intitule « Où va la presse ?», où tous ces problèmes-là sont développés par les lecteurs et les journalistes. Et comme dans le livre de Eco, le complot permet de déresponsabiliser totalement, puisque les grands responsables de la situation, c'est les complotistes. Donc le monde diplomatique de ce mois-ci aussi définit ce qu'est le complotisme et à quoi ça sert et comment aussi on peut s'en détacher. Voilà, toujours sur la presse, trois ouvrages, Umberto Eco numéro 0, paru chez Grasset, Où va la presse, numéro spécial de Politis de cette semaine, et Le Monde diplomatique du mois de juin, trois livres qui pourront nous dessiller et nous aider à comprendre le monde.
Voilà, bah merci Joël, on est en train de préparer nos vacances avec des valises extrêmement pleines, je vois. On va écouter
Qui a tué Debbie Moore, de Grimmer Wright, c'est la responsabilité, personne n'est responsable.
Qui a tué Debbie Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit l'arbitre, pas moi. Ne me montrez pas du doigt. Bien sûr, j'aurais peut-être pu le sauver si au huitième j'avais dit assez. Mais la foule aurait sifflé, ils en voulaient pour leur argent, tu sais. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il y en a d'autres au-dessus de moi. C'est pas moi qui les fait tomber. Vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas nous, dit la foule en colère. Nous avons payé assez cher. C'est bien dommage, mais entre nous, nous aimons un bon match et tout. Et quand ça barde, on trouve ça bien. Mais vous savez, on n'y est pour rien. C'est pas nous qui l'avons fait tomber. Vous ne pouvez pas nous accuser. Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son manager à part, tirant sur un gros cigare. C'est difficile à dire, à expliquer. J'ai cru qu'il était en bonne santé. Pour sa femme, ses enfants, c'est bien pire. Mais s'il était malade, il aurait pu le dire. C'est pas moi qui l'ai fait tomber. Vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué Davy Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort?
Donc nous vous avons présenté Échappée de Lionel Duroy aux éditions Julliard. 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille aux éditions PKJ et numéro 0 d'Umberto Eco chez Grasset. Je vous remercie tous. À la semaine prochaine, nous avions Mathias à la technique. Au revoir Monique.
Au revoir.
Au revoir Joël.
Au revoir, la semaine prochaine, une émission spéciale.
Au revoir.
Ah oui.
L'idée livre, votre rendez-vous littéraire, vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.